Keaton, la croisière du navigateur de Buster Keaton et une femme est une femme de Jean-Luc Godard. Mais tout de suite, on commence donc avec la leçon de piano, Marie.
Oui, vendredi soir, je suis allée voir La leçon de piano, un film sorti en 1993, film de Jane Campion. C'est un film dont j'avais pas mal entendu parler, qui me faisait assez envie. Si je vous résume un peu le pitch en quelques secondes, c'est l'histoire d'Ada, une Écossaise, on est au milieu du 19e siècle. Elle est muette, elle est mariée par son père de force à un colon qu'elle n'a jamais rencontré, un colon néo-zélandais. Et elle part pour la Nouvelle-Zélande avec sa fille de 9 ans et son piano, puisque comme Ada est muette, l'un des moyens qu'elle utilise pour communiquer avec le monde extérieur, pour traduire ses émotions, ses pensées, c'est son piano. Sauf qu'une fois arrivée en Nouvelle-Zélande, son mari vient l'accueillir et préfère abandonner le piano. Il lui dit qu'elle a déjà beaucoup de bagages à transporter, que c'est pas la peine de s'embêter avec ça. Et elle est obligée, c'est déchirant, d'abandonner son piano. Sauf que le piano est récupéré par un autre colon, Baines, qui lui est assez différent du mari, il est rustre lui aussi, mais il est plutôt proche des Maoris, il parle leur langue, il porte des tatouages, il est illettré également. Et Baines va proposer un marché, ou plus exactement un chantage, à Ada, puisque va lui proposer de lui rendre son piano, à condition qu'elle vienne lui rendre visite plusieurs fois, autant de fois qu'il y a de touches noires sur le piano, et à chaque fois elle jouera de la musique, et lui aura le droit de faire des choses, donc des attouchements, il aura le droit de l'agresser sexuellement, etc. Et c'est pas très grave, puisque il fait ça, mais c'est parce qu'il est très amoureux d'elle, et puis qu'il arrête pas de penser à elle, et puis bah, comme elle finit par tomber amoureuse de lui, bah ça résout le problème, et puis tout va très bien, sauf que le mari est jaloux, et je vais arrêter là le résumé, parce que c'est pas... Je vais pas vous raconter l'histoire en entier, surtout pas la fin. Mais je suis très embêtée avec ce film. Je vois en quoi l'histoire est bien construite, je vois en quoi la photographie est très belle, je vois en quoi la musique porte magnifiquement le propos, mais j'ai un problème politique avec ce film. J'ai été très très mal à l'aise pendant 2 heures parce que je ne supporte plus cette érotisation du non-consentement féminin qui est au cœur du film. C'est pas un marché sexuel, c'est pas un marché érotique que propose Baines à Ada. Il l'agresse, il la harcèle. C'est un homme qui exerce son pouvoir de domination sur une femme. Vous pourrez tourner ça dans tous les sens possibles, imaginables, vous n'arriverez pas à me rendre ça désirable. Et je ne supporte plus de voir ça érotisé, je ne supporte plus l'idée que, une femme, il suffit de la forcer pour qu'au final, elle dise oui, et puis que finalement, elle aimera ça. Non. Et je suis vraiment triste de devoir dire ça, mais c'est un beau film. Mais c'est un des films qu'il faut voir avant de devenir féministe. Et puis après, bah, vous devenez féministe, vous comprenez ce que vous avez vu, ça vous devient insupportable, et puis bah, vous prenez le pouvoir et vous vous mettez à faire d'autres films. Alors, je vais pas jeter la pierre sur Jane Campion, parce que je sais bien que c'est aussi le produit d'un sexisme intériorisé, mais vraiment, à cause de cette dimension, à cause de la violence qui est exercée contre les femmes dans le film, et on peut montrer cette violence, puisqu'elle existe dans la société. Moi, ce qui me gêne, ce qui me rend triste, ce qui me met en colère, c'est que cette violence, elle soit rendue désirable, elle soit rendue érotique, à cause de cette violence qu'il y a dans le film, contre le personnage d'Ada, qui a plein de qualités, qui est très intéressante, c'est un personnage muet, c'est assez rare au cinéma. À cause de cette violence, je ne peux pas recommander ce film à nos auditeurs et auditrices. Simplement parce que malheureusement ce film, même si c'est un film d'auteur, même s'il est très beau, une partie de son contenu m'est devenue littéralement insupportable.
Pendant le reste de l'année. nous avons vu La Croisière du Navigateur 2 et avec Buster Keaton. Alors, Maë, je te laisse l'honneur de nous raconter l'histoire. Peut-être pas tout.
Oui, bon, alors c'est un film assez réjouissant, hein, on peut le dire. C'est l'histoire de Buster Keaton qui se retrouve en fait coincé sur un bateau à la dérive avec la jeune femme qui vient de demander en mariage et qui a refusé assez abruptement sa demande. Ces deux aristocrates vont se retrouver à devoir survivre sur ce bateau à la dérive et vont se retrouver confrontés à toutes sortes de problèmes, ce qui va être l'occasion de nous faire découvrir toute la gamme de gags finalement qu'on peut imaginer sur un navire avec deux aristocrates à bord. Voilà.
Avec deux aristocrates et puis l'un d'entre eux est évidemment Buster Keaton, alors c'est pas le moindre des générateurs de gags qu'il y a eu dans le cinéma, c'est... était assez incomparable dans un certain nombre d'acrobaties. Alors, pour avoir déjà vu un certain nombre de films, j'ai été un peu biberonné à ces films-là quand j'étais petit. C'est pour moi vraiment pas le meilleur Buster Keaton, justement, parce que je trouve qu'on voit pas forcément ces acrobaties qui font vraiment sa spécialité, parce que c'était un athlète assez impressionnant. Et dans d'autres films, entre autres ceux qui avaient pu être projetés l'an dernier, c'était plus impressionnant. Alors là, c'est vrai que par contre, on a un scénario beaucoup plus poussé, on a vraiment une trame, et alors c'est quand même un enchaînement de gags, bien sûr, mais il y a quelque chose qui est un petit peu plus poussé dans la narration, dans l'invention formelle, on en reparlera, mais peut-être puisque tu m'as dit que c'était ton premier film de Buster Keaton, qu'est-ce que tu as pensé du style?
Eh bien, c'est un style assez intéressant, hein. Non, c'est, j'ai plutôt bien aimé, et c'est toujours amusant, je trouve, de voir les acteurs muets. Les gags étaient bien trouvés et ils arrivent à nous surprendre, même si bon, il y en a certains forcément s'y attendent un petit peu, mais d'autres nous surprennent et nous font franchement rigoler. Et un mot sur la musique quand même, hein, parce que c'était un ciné-concert avec le pianiste dont j'ai oublié le nom, peut-être que
je l'ai oublié aussi.
Et bien la musique était très bien jouée par ce pianiste dont on retrouvera le nom, j'espère, et avec une bonne son assez originale et quelques petits clins d'œil, et notamment un moment où il va carrément jouer avec les cordes du piano à queue, ce qui est assez intéressant musicalement.
C'est vrai que oui, la musique était vraiment bien. Ça m'est arrivé d'être déçu par les pianistes de l'Institut Lumière. C'est vrai que là, pour le coup, c'était vraiment excellent. Avec oui, bah alors le petit clin d'œil à 2001 à un moment, et puis peut-être terminer quand même sur les inventions formelles qu'il y a pu y avoir dans ce film, parce que alors, ça a été dit en introduction, on a quand même une scène sous-marine filmée sous la mer, hein, qui est assez impressionnante pour l'époque et pour les moyens techniques dont il pouvait disposer. On a aussi un certain nombre d'inventivité, de petites trouvailles au niveau du cadrage, du montage, qui témoignent d'un vrai travail formel. Et c'est vrai que ça fait aussi plaisir de voir des films à sketch, mais qui sont travaillés comme ça sur le plan de la forme. De toute façon, c'est toujours extrêmement réjouissant d'aller voir Buster Keaton. Alors, voilà, il reste d'ailleurs deux séances, hein, deux projections de muet avec accompagnement, bien sûr, lors de ce festival. Une demain soir, donc samedi, puis une autre dimanche matin à l'auditorium. On ne peut que vous encourager à y aller. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Alors, Une femme est une femme, qu'est-ce que ça raconte?
Eh bien, ça raconte l'histoire d'une femme qui s'affirme comme une femme. Non, mais sans plaisanter, on voit tous les clichés de la femme, et cette femme est amoureuse d'un homme qui l'aime, et parce qu'il s'aime, justement, ils essaient de tenter un peu le diable, ce qui tourne assez mal, sachant qu'à côté, il y a Belmondo qui joue à un autre homme amoureux de la femme. Enfin, bon, je ne sais pas si j'ai été très claire, et cette femme en question veut avoir un bébé.
C'est assez bien résumé au niveau de l'intrigue. Beaucoup de choses tournent autour de ce bébé. Enfin, est-ce que je viens de prononcer le mot intrigue pour un film de Godard? C'est assez antithétique pour le coup, parce que plus qu'une intrigue, c'est une ambiance, c'est une espèce de façon d'utiliser le cinéma pour s'amuser. C'est quand même très 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 ludique. ça fonctionne ou pas, hein. Je pense qu'on ne sera pas complètement d'accord sur ce sujet. Mais du coup, qu'est-ce que tu as pu en penser de ce film, Sarah ?
Eh bien, je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était l'un des Godard les plus légers et les moins snobs, finalement. Parce qu'on dit souvent que Godard est snob. Il fait plein de petites références qui sont finalement assez accessibles à tout le monde. Et des petites blagues qui passent soit par l'image. Donc, par exemple, quand Anna Karina feuillette les magazines sur les femmes, qui sont assez caricaturaux, ou bien lorsqu'il y a des petites références avec Jeanne Moreau dans Jules et Jim, ou bien beaucoup de réponses à Charles Aznavour, par exemple, qui était, je crois, assez populaire à l'époque.
Oui, en effet, alors, plein de références, et je peux peut-être choisir de commencer à attaquer par là. Non, j'ai vraiment l'impression... déjà, ça ne m'a pas fait rire. C'est-à-dire que j'ai dû... rire trois fois et sourire trois fois de plus pendant le film, donc c'est un petit peu, j'ai été un petit peu consterné du début à la fin, il faut bien le dire, et en fait, justement, cette succession des blagues, pas drôle du coup, je trouve, et de référence, me faisait un petit peu penser à une simple succession de blagues et de références, sans réel but, sans réelle signification. Alors, en effet, le discours, parce que c'est quand même quelque chose qui relève plus du discours que de la suggestion autour de la place de la femme est net. Mais autour de ça, il y a un certain nombre de petits amusements qui s'intègrent et qui auraient pu me plaire s'il n'avait pas été la seule matière du film. J'ai un petit peu eu cette impression de voir se succéder des bonnes petites trouvailles rigolotes de Godard qui s'est dit qu'il allait placer les unes après les autres sans réelle construction autour de ça. Alors, évidemment, tu ne seras pas d'accord.
Non, effectivement, je les ai trouvés drôles, donc je n'ai peut-être pas en très bon humour, finalement. Mais en fait, là où je rejoins un peu Rémi, c'est que parfois, le film se tient par les acteurs, et notamment par Belmondo, qui, une nouvelle fois, m'a beaucoup fait rire et m'a passionnée, parce que son personnage en soi est très rigolo, il ne se prend pas vraiment au sérieux, et c'est un aspect du film que j'aime beaucoup. Le fait que le film lui-même ne se prenne pas au sérieux, et se questionne toujours, mais est-ce que c'est une tragédie ou est-ce que c'est une comédie un peu ridicule ?
Alors, pour le coup, j'avais l'impression que c'était très très assumé, que c'était une comédie un petit peu ridicule. Mais parce que, autant certains films de Godard, ne serait-ce que Le Mépris, par exemple, pour citer le plus connu, aussi vraiment entre cette comédie allégorique et quelque chose de vraiment tragique, autant là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le registre de la comédie, si j'étais mesquin, je dirais de la tentative comique. Mais voilà, et en tout cas, une comédie où on retrouve toute la forme que développe Godard dans son cinéma. Alors, bon, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé les couleurs chez Godard, et ça se retrouve ici. J'ai toujours détesté sa gestion de la bande-son, et c'est plus calamiteux que tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il avait une espèce de je sais pas, une machine aléatoire qui décidait de mettre ou d'enlever le son au fur et à mesure du film, et puis de temps en temps il apparaît, de temps en temps il disparaît, sans qu'on ait l'impression que ça fasse aucun sens, mais juste peut-être une tentative d'être innovant, je sais pas. Enfin, je pose vraiment la question du bien fondé de cette musique assourdissante en plus, qui nous assomme, puis d'un coup disparaît, puis nous réassomme une fois qu'on s'était habitué à un silence un petit peu agréable. Mais bon, ça c'est aussi l'une des marques de fabrique de Godard. En tout cas, les couleurs sont intéressantes, et je pense que là-dessus, c'est peut-être le point où on sera d'accord.
Oui, je crois que Godard est assez connu pour l'usage de ses couleurs et des filtres aussi qu'il utilise beaucoup. Il le met notamment en scène lorsqu'il y a un gros plan sur le visage d'Anna Karina avec le filtre vert, le filtre mauve. Et puis, bien sûr, au niveau des couleurs, c'est quand même très très marqué, on le voit dans la décoration de l'appartement. Et dans les vêtements, oui, avec Anna Karina qui porte des bas rouges, alors qu'elle est un peu bas bleu. Enfin, il y a la blague à un moment. Donc, qui est habillé tout en bleu, donc, ce qui tranche bien avec le rouge, je trouve, parce qu'il montre un peu l'opposition et en même temps la complémentarité entre les deux. Tandis qu'on peut remarquer que Belmondo, qui est donc le troisième personnage principal, lui n'a pas de couleur particulière, enfin, il est juste gris. Donc c'est comme s'il était déjà exclu de l'histoire. Donc, ça peut être une piste interprétative.
On va ajouter à ça, avant de sombrer complètement dans la consternation, j'ai quand même eu le temps de repérer une belle scène. Non, il y a une scène où d'un coup Aznavour démarre et reste suffisamment longtemps sur la bande-son sans être coupé, et où on se retrouve avec une espèce de pause contemplative dans un café avec le regard de Macarena, qui d'un coup est soudain très très belle, c'est pas facile. C'est-à-dire que ce cinéma reste pour moi un mystère complet. Je n'arrive pas à comprendre la construction de tout ça. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que c'est justement le but. Mais alors, du coup, qu'est-ce que je fais dans cette salle? Enfin, c'est assez fascinant, quoi.
C'est l'une des choses que j'aime bien avec Godard, c'est que parfois il exploite tellement la superficialité qu'on se demande s'il y a quelque chose à comprendre. Et bah, des fois, quand je vais voir un de ses films, je me dis, bon, j'y vais comme ça, pour voir les couleurs.
Et écoutez, allez-y donc pour voir les couleurs, chers auditeurs. Je ne sais pas si la conclusion est très amène. Mais, et puis allez-y éventuellement pour vous faire une idée. Évidemment, il faut quand même avoir vu Godard, ne serait-ce que pour savoir pourquoi on n'aime pas. En tout cas, que vous aimiez ou non,